Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe.
Bonjour et bienvenue dans Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le conseil départemental de la Sarthe qui met en avant la pratique du sport dans le département à travers ses différents acteurs, associations, structures et entreprises. Aujourd'hui, un défilé de voitures de collection qui met à l'honneur le sport mécanique au féminin. C'est la nouvelle édition d'Arnage dans la course. Ce sera le 11 juin sur la place Mitterrand d'Arnage. Et puis nous serons ensuite avec Alban Rochu, jeune pongiste licencié à Le Mans Sarthe Tennis de Table. À 13 ans, elle a obtenu le double titre en simple et en double au championnat de France dans sa catégorie. Et pour finir, nous écouterons la chronique d'Anthony sur la fuite des talents de basket français vers les États-Unis. Et on commence avec notre premier sujet du jour.
Radio Alpa, l'alternative.
Arnage devance les 24 heures du Mans avec Arnage dans la course le 11 juin. 80 voitures de course et de collection réunies sur la place François Mitterrand. Pour le plaisir du public, l'événement est gratuit et cette année, pour cette 12e édition, ce sont les femmes qui sont mises à l'honneur. On en parle avec Jean-Christophe Houchard, président d'événements Sport Mécanique 72, association organisatrice de l'événement avec la ville d'Arnage. Bonjour Jean-Christophe Houchard.
Bonjour à vous.
Alors tout d'abord, un mot sur votre association peut-être, événements Sport Mécanique, est-ce que vous pourriez nous la présenter ?
Alors, il s'agit d'une toute petite association, puisque nous sommes un chiffre moyen entre 20 et 26 personnes suivant les années. Vous comprendrez bien que ça fluctue, hein. C'est un peu comme ça dans les associations, le milieu associatif étant ce qu'il est. C'est une association qui fait une seule manifestation dans l'année, Arnage dans la course. Arnage dans la course, c'est pour nous la 12e édition. C'est une manifestation qui existe depuis 2014. Il y avait eu une édition avant, mais qui était une édition un petit peu pirate. On va dire ça comme ça. Depuis 2014, c'est une édition, c'est une manifestation qui est organisée par notre association, qui a changé de nom en cours de route. Et cette manifestation consiste à présenter des véhicules de compétition, des véhicules d'exception, des véhicules de collection, à tous les publics, petits et grands, puisque nous accueillons aussi les enfants des écoles. Dans la matinée du jeudi. Et cette manifestation se finit en général par un défilé automobile sur le site de la manifestation après la parade de midi qui a lieu au centre-ville entre 12h45 et 13h15.
Et donc ce rendez-vous annuel, il sert de prélude aux 24 heures du Mans en quelque sorte ?
En quelque sorte, c'est un petit peu une façon d'associer les gens qui n'ont pas forcément les moyens ou le temps d'aller assister aux 24 heures du Mans, c'est un petit peu une façon de les associer à la manifestation et à la fête. D'ailleurs, notre principe de fonctionnement, c'est d'essayer de recréer l'esprit de l'ancien village des 24 heures du Mans, ce qui concerne les petits commerces et les commerces de bouche, buvettes et frites saucisses. Parce que les 24 heures du Mans, sans la bonne odeur du barbecue, c'est pas les 24 heures du Mans.
Et on précise hein, donc, que même s'il y a course dans le titre de l'événement, il ne s'agit pas d'une course, hein, c'est bien une exposition. Est-ce que les voitures sont accessibles au public ? Dans quelle mesure ?
Les voitures sont parfaitement accessibles au public. Tout le monde peut les approcher au plus près. Bon, il est bien évident que certaines voitures ne sont pas à manipuler. Mais d'une manière générale, les propriétaires sont là et sont prêts à expliquer un petit peu et à présenter leurs automobiles à tout le public qui voudrait s'y intéresser et qui voudrait poser des questions.
Est-ce qu'il y a certaines voitures où il est possible de rentrer dans l'habitacle ou pas du tout ?
En fonction de l'avis des propriétaires, je ne m'engage pas là-dessus.
Oui, ça marche. Et donc cette année, la thématique, c'est les sports mécaniques au féminin. Même si le sport automobile reste majoritairement pratiqué par des hommes, les femmes, elles aussi, se démarquent dans ce sport ?
Ah, de plus en plus, puisque aujourd'hui, on arrive même à trouver des ingénieurs de piste dans les écuries de Formule 1. Les sports mécaniques, d'une manière générale, se féminisent de plus en plus. On a à Arnage Amélie Vielle, championne de France moto en 2022. Les sports mécaniques ne sont pas exclusivement réservés aux hommes. Vous avez en championnat de France de rallye sur terre un équipage féminin qui vient de remporter sa deuxième victoire d'affilée. Pourquoi pas ? Il y avait aux 24 heures du Mans les équipes Iron Dame qui ont été mises en avant sur les années précédentes, mais il ne faut pas oublier non plus en 1975 un équipage composé de Michel Mouton, Christine Dacremont et Marianne Hopfner qui gagne la catégorie de litres.
Michel Mouton, c'est un peu la figure emblématique du sport mécanique féminin en quelque sorte ?
En France, oui. En France, oui. Elle a un peu l'exclusivité. Bien qu'autour d'elle, il y ait énormément de femmes qui ont donné et qui ont eu des résultats très intéressants.
Alors, Michel Mouton ne sera pas là, hein, mais pour l'occasion, vous faites quand même venir...
On a essayé.
Vous faites quand même venir plusieurs invités de marque. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ?
Alors, on a une jeune fille qui court le championnat régional de Formule Campus, qui s'appelle Elisa Charon, qui est issue de la formation proposée par la FFSA Academy au Mans, et qui a quitté un petit peu le giron de la FFSA Academy et qui s'est lancé avec un coéquipier, voilà, une fois de plus, encore un homme, qui s'est lancé dans la compétition et qui a des résultats tout à fait honorables. Et je pense qu'on peut aussi, en les mettant un petit peu en avant, peut-être leur permettre de trouver des partenaires, de façon à financer leur saison de sport automobile. Et puis on a, alors là, c'est un personnage dans le milieu du sport automobile, une dame qui s'appelle Lucette Péan, que les Sartois connaissent, que les Manceaux connaissent, qui a été la première femme commissaire de piste dans le sport automobile. Et donc, elle a exercé, y compris à l'étranger, comme directrice de course, et c'est un personnage. Avec un nombre incalculable d'anecdotes, c'est un personnage.
Et il sera possible donc pour le public de les rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire sur cette journée concrètement, ces invités ?
Alors, on a une phase d'échange, d'interview et d'échange qui est prévue entre 11h et 12h30 à peu près, avec toutes les personnalités qui sont invitées. Tout le monde pourra venir poser des questions, demander des autographes, puisqu'on a quand même quelques pilotes de la FFSA, des élèves pilotes de la FFSA qui vont venir nous rendre compte, au nombre de 4. Dont une qui a été cooptée par la Williams F1 Academy, ce qui laisse augurer d'un avenir sportif assez intéressant.
Donc un âge de la course va peut-être permettre de connaître davantage l'histoire du sport automobile au féminin. Parce que, est-ce que les passionnés de sport automobile sont aussi calés sur les femmes pilotes que sur les pilotes hommes ? Est-ce que les passionnés connaissent aussi bien les deux milieux quoi ?
Bon, pas forcément aussi bien, mais on s'y intéresse forcément. Quand il y a des résultats, on s'intéresse forcément aux gens qui obtiennent les résultats. On aura par exemple la visite de Christine Bakers, qui est une pilote belge qui a participé 10 fois aux 24 heures du Mans. Elle n'a pas gagné, la pauvre, elle n'a pas gagné. Mais ça reste un personnage. Ce sont des femmes qui se sont investies dans les sports mécaniques et force est de reconnaître qu'elles ont eu un courage monstrueux. Je dis bien monstrueux. Parce que faire ce qu'elles ont fait dans un milieu d'hommes, il fallait y aller, quoi.
Et donc, on le rappelle, il y aura évidemment le clou du spectacle, ce sont ces deux défilés sur Harnache dans la course. Ça regroupe 80 voitures. Alors, qu'est-ce qu'elle regroupe, cette collection ? C'est de l'ancien, surtout ?
On a un petit peu de tout. On a un petit peu de tout, y compris des voitures d'exception, hein, genre McLaren, Ferrari tout à fait récentes, qui vont venir défiler et parader au centre-ville. Cette année, comme les années précédentes, parce que bon, je suis un ancien militaire, hein, ça se voit peut-être pas, mais c'est comme ça. J'invite toujours un propriétaire de Jeep, d'une Jeep qui a participé au débarquement, et c'est toujours lui qui ouvre le défilé, parce que voilà, c'est le petit côté un petit peu nostalgique, et je trouve ça sympa d'avoir un véhicule qui n'est pas forcément un véhicule de course, hein, mais bon, voilà.
Et alors, hormis cette Jeep, j'imagine, toutes les autres voitures ont déjà participé aux 24 heures ?
Non, pas du tout. On a des voitures qui sont des voitures qui étaient considérées comme des voitures de tourisme il y a quelques années et qui aujourd'hui sont devenues rares et qui viennent se montrer aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que les voitures qu'on a oubliées. Il faut savoir aussi qu'on a eu une politique avec l'automobile qui a fait qu'on a envoyé beaucoup de véhicules à la casse. Et les quelques-uns qui n'ont pas envoyé leur véhicule à la casse sont capables aujourd'hui de sortir des voitures qu'on ne voit plus du tout. Plus du tout. Et pourtant, ce ne sont pas des voitures de course.
Et alors, est-ce que la thématique de cette année, donc le sport mécanique féminin, a orienté le choix des modèles présentés lors de l'événement ?
Non, pas du tout. Pas du tout. On aurait voulu, mais c'est très compliqué. D'abord, trouver des femmes qui acceptent de venir, c'est très très compliqué. Et puis, trouver des véhicules en particulier, c'est... Bon, voilà, vous imaginez bien que les propriétaires de véhicules emblématiques, pour les déplacer, il faut se donner du mal.
Alors par contre, quand même, sur votre affiche, on voit apparaître trois modèles. Oui. Est-ce qu'ils ont une signification particulière, ces trois-là ?
Oui. Alors sur le haut, à gauche de l'affiche, on a une Porsche rose. Un petit rappel au Iron Dam qui courait avec des voitures roses aux 24 heures du Mans. En face d'elle, on a une Fiat 131 Abarth qui est une voiture un petit peu... on en parle peu, mais c'est une voiture avec laquelle Michel Mouton, toujours elle, a obtenu des résultats assez exceptionnels en championnat de France et en championnat d'Europe. On parle toujours de Michel Mouton avec des Audi Quattro, mais il y a eu d'autres voitures aussi. Et pour finir, une voiture que Michel Mouton a pilotée, la Moinet LM75. Alors 75 pour l'année où elle a couru aux 24 heures du Mans, et 75 aussi pour 750 kilos, puisque c'était une histoire de réglementation. Hein. Et elle était en catégorie 2 litres, et cette voiture-là, je voulais la voir parce que c'est une voiture, je voulais qu'elle soit sur l'affiche parce que c'est une voiture qu'on a oubliée. C'est une petite voiture française qu'on a complètement oubliée et qui a couru deux fois aux 24 heures du Mans et qui a gagné une fois sa catégorie. Il faut le faire quand même.
En tout cas, Michel Mouton qui est lié à deux des modèles présents sur l'affiche. Comme quoi, c'est vrai qu'elle est quand même assez iconique. Et alors, ces voitures dessinées sur votre affiche, elles non plus, vous n'avez pas réussi à les récupérer en vrai pour l'événement ?
Non, c'est très difficile. Les Fiat 131 Abarth, il doit en rester des versions usines, il doit en rester une petite dizaine, dont la plupart sont en Italie. Force est de constater qu'ils sont très amateurs de leur marque. Et les Moinet, il en reste une sur les deux qui ont été construites et le propriétaire ne souhaitait pas la sortir.
Alors en début d'année, vous lanciez un appel aux bénévoles dans le Maine Libre. Est-ce que vous en avez toujours besoin ou bien vous êtes complet ?
Oui, on a toujours besoin de bénévoles. Vous savez, ce genre de manifestation, ça nécessite du monde, principalement à cause du défilé sur la voie publique et où on a vraiment besoin de gens pour éviter les accidents. Quoi. Il faut absolument que les voitures puissent circuler librement sans risquer de renverser un enfant ou quoi que ce soit.
Elles vont rouler vite, les voitures ?
Non, elles roulent doucement. Mais vous savez, un enfant, il suffit qu'il échappe à la poigne de son père et il est sur la route. Quoi. Donc il faut qu'on ait du monde. Il faut absolument qu'on ait du monde pour surveiller tout ça.
Je vous remercie Jean-Christophe Houchard, président d'événements Sport Mécanique 72, association qui organise Arnage dans la course avec la ville d'Arnage. Et on rappelle, ce sera le 11 juin, place François Mitterrand, en espérant que vous n'ayez pas trop chaud. Merci beaucoup.
Merci.
Radio Alpa, l'alternative.
On poursuit avec notre deuxième sujet du jour. Une joueuse du club Le Mansart Tennis de Table, deux fois titrée au championnat de France. Alban Rochu a remporté le titre de championne en simple et en double, catégorie cadette à Saint-Quentin, c'était le 17 mai. Et nous sommes avec elle pour retracer son parcours, nous raconter comment elle a vécu cette compétition et ses futurs projets dans le tennis de table. Bonjour Alban Rochu.
Bonjour.
Et avec vous également, votre entraîneur Xavier Fortineau. Bonjour également.
Bonjour.
On précise que vous êtes en ligne avec nous depuis Nantes, où vous vous entraînez au pôle Espoir, et que vous êtes avant tout mayennaise, pourtant licenciée au club Le Mansart Tennis de Table. Donc Nantes, Mayenne, Le Mans, on s'y perd un peu. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce parcours, Alban Rochu ? Déjà, comment est-ce que vous êtes entré dans le tennis de table ?
Je suis rentré grâce à l'école. On faisait du sport et des sections sport et y a eu des étapes et j'ai bien aimé, j'ai continué.
Et vous avez d'abord commencé en Mayenne ou vous êtes tout de suite inscrite au Mans ?
Non, j'ai d'abord commencé en Mayenne, lui a changé des étapes.
Et alors qu'est-ce qui vous a fait vous inscrire à Le Mansart Tennis de Table donc ?
Parce que à changer, il n'y avait pas de club fille, d'équipe fille et alors qu'au Mans, il y avait une équipe fille. Du coup, je suis allé là-bas.
Xavier Fortineau, vous êtes son entraîneur au Pôle Espoir depuis combien de temps alors ?
Alors, Alban elle est arrivé sur le Pôle Espoir il y a sa troisième année au Pôle Espoir et 2 ans qu'elle est arrivée sur le Crêpes de Nantes. Donc, je m'occupe d'elle particulièrement depuis deux ans.
Et alors, sur ces 2 ans, est-ce que vous avez pu la voir évoluer déjà ?
Ah bah oui, Alban, elle passe les étapes plus rapidement que ce qu'on avait prévu, en tout cas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est, en plus d'être titrée au championnat de France cadet, elle est aussi qualifiée au France senior. Donc oui, Alban, elle va plus vite que la musique, comme on dit.
Et donc, ce pôle espoir de Nantes, c'est la structure d'entraînement destinée aux joueurs et aux joueuses de plus haut niveau, Xavier Fortineau ?
Oui, alors il y a deux structures fédérales à Nantes. Il y a le pôle France et le pôle espoir. Et aujourd'hui, c'est plutôt un travail collectif. Hein. On travaille ensemble sur le projet d'Alban. Donc Alban, elle s'entraîne sur le pôle espoir, mais également sur le pôle France. Et sur Nantes, on a une bonne majorité des joueurs des équipes de France jeunes.
Et donc Alban Rochu, le 17 mai, est-ce que c'était votre première expérience dans un championnat de France ou vous en aviez déjà fait?
Non, j'en avais déjà fait. Ça doit faire au moins 2-3 ans que je fais des championnats de France.
Et donc celui-ci de cette année, comment est-ce que vous l'appréhendiez, cette compétition? Est-ce que vous étiez confiante?
Je savais qu'au cadet, je partais une, donc je savais que j'avais l'objectif de faire première. Mais après, derrière, il y avait des bonnes joueuses aussi.
Ah oui, donc c'était quand même votre objectif en arrivant d'arriver à la première place.
Oui.
Et alors Xavier Fortino, comment est-ce qu'on s'entraîne pour une telle compétition et comment vous l'avez accompagné dans cet entraînement?
Non, mais là, il faut savoir qu'au tennis de table, on s'entraîne énormément avec des volumes très importants. Donc le quotidien d'Alban, c'est à peu près entre 20 et 25 heures d'entraînement par semaine en fonction des périodes et même pendant les périodes scolaires. Donc voilà, on prépare cet événement parmi tant d'autres, parce qu'Alban, elle est aussi internationale, elle est médaillée aussi l'année dernière en championnat d'Europe, donc voilà, c'est un quotidien qui est de sportif de haut niveau, quoi.
Et en tout cas, deux matchs ont été particulièrement remarqués dans le championnat du 17 mai. Le face-à-face entre Alban et Chloé Yuang de l'US Fontenaisienne. Elle te dominait 3-7-0. Alban, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Comment tu as réussi à remonter?
J'ai trouvé comment la jouer, j'ai trouvé la tactique qu'il fallait mettre en place. Et j'ai mis de plus en plus de balles sur la table et j'ai pas lâché et elle a un peu lâché à la fin.
Oui, parce que réussir à gagner 4-7 à la suite alors que tout semble perdu, finalement, comment est-ce que tu as réussi à trouver le mental et l'énergie pour remonter le match? Parce que c'est ça que ça doit demander surtout, c'est du mental, non?
Oui, il y avait beaucoup de pression aussi. Et j'ai pas lâché et je suis allé au bout.
Et puis t'as ensuite gagné 4-7-2 contre Lisa Zhao, qui évolue pourtant en Pro A, le plus haut niveau au tennis de table. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi, cette victoire?
Il y a 2 ans, j'avais déjà gagné aussi 3-2. Et là, de la regagner, ça fait plaisir aussi parce que c'était une finale.
Ah oui, donc c'est presque la routine pour toi, en fait, de battre des joueuses de Pro A, finalement.
C'est la seule que j'ai battue.
Ce qui t'a permis, en tout cas, de remporter le titre en simple. Et c'était pas suffisant, il fallait aussi remporter le titre en double. C'est ce que tu as fait avec Eva Lam, licenciée à l'IRS. C'était la première fois que vous jouiez ensemble avec Eva?
Non, on avait déjà joué ensemble sur des compétitions internationales. Et là, au championnat de France, oui, c'était la première. C'était la deuxième fois.
Et alors, ça matche bien entre vous, justement, sur les compétitions? Vous arrivez à bien jouer ensemble? Il y a une bonne alchimie?
Oui, en plus, on s'entend très bien en dehors, donc oui, ça matche bien.
Et Alban Rochu, tu évolues en Pro B pour le moment. À 13 ans, est-ce que tu te vois déjà en Pro A?
L'année prochaine, normalement, je devrais être dans l'équipe de Pro A et Pro B.
C'est aussi la Lyonnaise Alexia Naudin qui est entrée en Pro A à 15 ans au sein du club du Mans, après avoir été elle aussi championne de France cadette. Xavier Fontino, en tant qu'entraîneur et responsable du pôle espoir tennis de table des Pays de la Loire, est-ce que vous voyez régulièrement passer des licenciés de Le Mansart tennis de table?
Ça arrive un petit peu, oui. C'est surtout du côté des féminines, en tout cas. Même si Alexia ne s'entraîne pas sur la région, mais on a pas mal d'internationales françaises qui s'entraînent sur Nantes.
Et oui, donc c'est surtout des filles, vous dites
Sur le Mans, oui. Le Mans est un club orienté performance du côté féminin, plutôt, au jour d'aujourd'hui.
Et plutôt des jeunes aussi, non? Il y a un pari sur la jeunesse de la part du club?
Oui, parce qu'il y a il y a quelques résultats significatifs, je sais pas, de France U11 avec Clémence Suran qui a fait quart de finale. Donc oui, ça commence à devenir une habitude sur le club du Mans.
Je vous remercie en tout cas Xavier Fontino, responsable du pôle espoir tennis de table des Pays de la Loire, ainsi donc qu'Alban Rochu, jeune championne cadette de tennis de table, licenciée au club Le Mansart Tennis de Table. Merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Et bonne continuation en Pro B et en Pro A.
Radio Alpa, l'alternative.
On termine cette émission avec la chronique de notre stagiaire Anthony. Les jeunes basketteurs français fuient tous vers les États-Unis, mais alors pourquoi ça?
L'Amérique séduit les basketteurs français, un phénomène qui s'accélère depuis plus d'un an. Les universités états-uniennes ne cessent de rafler les jeunes prodiges. Le départ du jeune manceau Hugo Nguyen chez les Mocs de Chattanooga montre cette tendance. Une mode dans le basket qui s'explique pour de nombreuses raisons. Jouer dans le pays du basket, c'est le rêve de tous les jeunes joueurs. Ça fait peser la balance pour les universités américaines. Les écoles proposent une place dans le campus, un suivi du programme scolaire et un rôle important dans l'équipe de l'université. Un contrat en or pour ces jeunes. Véritablement en or, les écoles proposent un salaire pour les joueurs, un salaire bien plus haut qu'en France. Hugo Nguyen a révélé à West France qu'il allait gagner 10 fois plus l'année prochaine. L'aspect financier pour un étudiant est très important, le coût des études, du logement, c'est la problématique des jeunes d'aujourd'hui. Vous devez vous demander pourquoi ce phénomène s'accélère depuis un peu plus d'un an. Tout simplement parce que le NCAA, qui organise des programmes sportifs aux universités américaines, a permis aux universités américaines de payer leurs étudiants. Le NCAA a pris cette décision pour écraser la concurrence européenne et assurer la supériorité du basket américain, mais aussi pour donner une récompense aux joueurs, car avant ils n'avaient qu'une bourse, contrairement à l'entraîneur et le staff qui ont un salaire. Mais attention, l'argent ne rime pas avec succès, être dans un nouveau pays implique une nouvelle culture, un nouvel environnement, sans compter la pression psychologique intense que doit supporter le jeune joueur avec ses nouvelles responsabilités et son nouveau gros salaire. On peut prendre l'exemple Victor Wembanyama. Il a choisi de se développer en France et d'attendre ses 19 ans, il a fini par accomplir son rêve de jouer à NBA en rejoignant les Spurs en 2023. Les jeunes ne doivent pas se laisser aveugler par l'argent et comprendre que le chemin est souvent semé d'embûches avant d'atteindre les étoiles.
Merci Anthony pour cette chronique et c'est désormais la fin de Sport en Sarthe. Merci d'avoir écouté cette émission que vous pouvez retrouver en podcast sur radioalpa.com. Dans les infos de la rédaction, Sport en Sarthe revient vendredi 5 juin et d'ici là, rendez-vous lundi 1er juin pour C'est d'Actu sur Radio Alpa, bien évidemment.